Je vais vous parler d'un thème, alors ce sera peut-être plus un enseignement, j'ai trouvé que c'était un thème intéressant, suite à une expérience que j'ai vécue il y a quelques jours avec quelqu'un. Je parlais avec une personne qui est responsable de Jeunesse en Mission depuis 25 ans maintenant, une personne qui est dans le leadership, qui a des responsabilités, et qui a voyagé dans le monde aussi, qui a été missionnaire pendant 6 années dans un pays d'Asie centrale. Et cette personne, donc, n'est pas de la dernière pluie, quelque part. Et on parlait ensemble, et elle me disait à un moment donné, parce qu'elle traverse, dans un sens, dans une certaine mesure, une certaine remise en question de son leadership, et elle me disait, on se connaît bien, hein, faut dire qu'on se connaît depuis 20 ans maintenant, elle me disait, je bataille dans ma vie depuis si longtemps avec la peur de décevoir les gens. Et ce matin, et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose là vraiment d'intéressant. Elle me parlait de cette bataille qu'elle avait. Les gens avaient prié pour elle. Je crois même qu'elle est allée voir des gens au niveau professionnel, en termes psy probablement, je ne sais pas. Mais elle m'a dit, j'ai fait beaucoup de choses. Mais je me suis toujours battu, j'ai toujours eu cette bataille avec la peur de décevoir les gens. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même un problème ça dans la vie de quelqu'un, quand on vit avec cette peur de décevoir les gens. Et c'est le thème ce matin que j'aimerais parler avec vous, parce que je me dis c'est peut-être intéressant. C'est la première fois que je le donne, hein. Alors soyez compassionnels. La peur de décevoir. Et je me dis, c'est quand même quelque chose, on fait tous face à ce, plus ou moins dans notre vie, à différents moments, à ce genre de dilemme. Pour certains, c'est pas très prononcé. Pour d'autres, c'est un vrai problème. Et en tant que chrétien, on n'est pas épargné par la peur de décevoir les gens, la peur de décevoir papa, la peur de décevoir le pasteur, la peur de décevoir le prof. Mais ce n'est pas une très bonne dynamique en réalité, parce que si on vit avec cette base, notre vie elle est un peu faussée quand même. Et je pense parmi nous, dans la salle, je ne pense pas qu'il y a une seule personne qui n'a pas été plus ou moins confrontée à ce problème dans sa vie, une fois ou plus. Et j'espère ce matin qu'on puisse avancer, pas d'une façon magique, hein, qu'à la fin d'une demi-heure de prédication, clac, mais peut-être qu'on puisse avancer et puis décoder qu'est-ce qui fait qu'on a cette dynamique qui est parfois redoutable, la peur de décevoir, de quoi s'agit-il en fait? Alors j'ai fait des petites recherches, j'ai pris du temps, et le problème ce n'était pas le manque de réponses que je trouvais, c'était l'abondance de réponses, donc il fallait un peu simplifier. La peur de décevoir, c'est une conséquence de la peur du rejet. C'est presque, ça tombe de sens, la peur de décevoir, c'est la conséquence de la peur du rejet. On voit qu'il y a les élections qui vont arriver, présidentielles, mai 2022. Et qu'est-ce que font les politiques, hein? Eh bien, ils font des promesses, hein, parce qu'ils ne veulent pas décevoir les gens. Ces promesses seront plus ou moins tenues, hein, on le sait historiquement. Voilà. Mais ils font des promesses et puis ils vendent tous, ils font du buzz quelque part, comme on dit, c'est le mot à la mode. On fait du buzz pour éviter de décevoir la population. Et parce qu'ils ont peur d'être rejetés dans les urnes. Donc la peur de décevoir, c'est une des conséquences, c'est la conséquence de la peur d'être rejeté. La peur de décevoir, c'est la peur de ne pas être à la hauteur des espérances de quelqu'un. Vous voyez, c'est quand même pas évident, quoi. C'est-à-dire ça nous oblige, si on ne veut pas décevoir, à être à la hauteur des espérances de quelqu'un. Et je vous en parle, hein, parce qu'en tant que chrétien, on est touché, on traverse ces choses au boulot, à l'église, dans le ministère. Moi, j'en fais partie aussi de ces choses-là. Et en fait, ce qui se passe quand quelqu'un ne veut pas décevoir, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Il faut que cette personne soit parfaite. Hein, c'est pas évident d'être parfait. D'ailleurs, la perfection n'est pas de ce monde. Donc quelque part, quelqu'un qui ne veut pas décevoir va essayer, parce qu'elle a peur d'être rejetée, elle va essayer dans son comportement, dans ses attitudes, dans son langage, d'être parfait, pour éviter d'être mise à l'écart. Tiens, je voudrais juste vous sonder. Qui fait face à cette peur de décevoir? Juste lever la main pour voir si je parle à... Non, hein, on a tous passé par ces choses-là. Et cette perfection, on va la construire avec des critères qui sont finalement très subjectifs, des critères qui sont très personnels. Donc ça se passe dans le milieu de l'entourage familial. Ça se construit dans notre passé. On le vit, cette peur de décevoir. On l'exprime dans le cadre professionnel, mais aussi, bien sûr, dans le cadre de l'Église. Et la personne pense qu'elle sera respectée et aimée si seulement elle remplit ses critères de perfectibilité. Pas évident, hein ? C'est pas évident. Et parfois, le problème, c'est que quand on ne veut pas décevoir, qu'est-ce qui se passe ? On peut sacrifier notre propre personnalité. On peut sacrifier nos propres valeurs. On peut carrément modifier inconsciemment et consciemment notre personnalité pour plaire à quelqu'un d'autre. Voyez ? Je me rappelle une fois d'une histoire d'un pasteur américain qui avait un dilemme avec son église parce qu'il avait des reproches de plusieurs personnes dans son église. Et puis, il avait peur de décevoir. Ça, c'était sa motivation de base. Ce pasteur voulait plaire à son église. Et un jour, il y a un orateur qui est venu dans son église, et puis il a eu comme une petite révélation, comme ça. Il a fait un dessin sur un papier, comme une cible, et il dit, quand je regarde ton église, et quand je considère comment tu essayes de plaire à ton église, je vois trois catégories de personnes dans ton église. Il dit, je vois la première catégorie de personnes, ce sont des gens qui sont, c'est un petit noyau qui est très engagé envers toi et qui veulent avancer, qui sont consacrés, c'était peut-être le conseil de l'Église, hein, il ne le dit pas. Et puis il y a un deuxième cercle sur cette cible, il y a ce noyau, puis ce deuxième cercle plus élargi, c'est des gens qui ne sont pas forcément engagés dans les responsabilités, mais ils veulent avancer et ils veulent apprendre. Et puis il parle de ce troisième cercle, le plus grand, troisième cercle de l'Église autour de la cible. Et il dit, ça c'est le cercle de personnes qui viennent de temps en temps à l'Église, de temps en temps, qui sont des consommateurs, mais qui te demandent le plus de toi. Ils te disent, la louange n'est pas assez bonne, la prédication n'est pas assez bonne, le chauffage n'est pas, voilà, la sono n'est pas assez bien, etc. Et en fait, le gars, il lui dit comme ça au pasteur, en fait tu essayes de plaire à cette majorité-là, en ne t'occupant pas de ton noyau, mais aussi de gens qui veulent apprendre. Et ce qui se passait dans l'histoire de cette église locale aux États-Unis, c'est que les gens qui étaient engagés commençaient à quitter l'église. Vous voyez ? Et le noyau commençait à être démotivé parce que ce pasteur-là, il voulait contenter les trois couches en même temps. Vous voyez ? Il avait la peur de décevoir. Et il se concentrait sur cette majorité de personnes qui étaient finalement peut-être plutôt des consommateurs. Ce n'est pas forcément péjoratif ce que je veux dire, hein. Mais c'était comme ça. Un grand nombre de personnes qui ne veulent pas vraiment s'engager, qui sont là et ils ont une exigence élevée et qui ont fait que ce pasteur a basculé dans la peur de ne pas décevoir. Et le pasteur, il dit comme ça, mais c'est vrai, c'est exactement ça. J'essaie de me concentrer sur ces gens qui sont là, qui ne sont pas engagés. Et je vois que les gens qui sont engagés quittent parce qu'ils ne se sentent pas forcément soutenus, formé assez par l'équipe de base et le pasteur qui la représente. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Ah, le gars lui dit, écoute, tu as un choix à faire. Sur quel cercle tu vas te concentrer ? Ah, mais ça veut dire que je risque de décevoir des gens. Et le gars lui dit, oh oui, tu vas décevoir des gens. Et le gars lui donne un conseil. Concentre-toi sur ton équipe, avec qui tu es, le noyau. Et concentre-toi sur le premier cercle des gens qui veulent apprendre. Les autres, tu les laisses, ils peuvent venir dans l'église, parce que l'église, c'est un lieu d'accueil, pas de problème. Mais ne cherche pas à adapter ton église par rapport à ces gens qui viennent consommer. Alors, il a commencé à faire cela, et il voyait que tous ces gens qui venaient consommer, plus ou moins, étaient de plus en plus énervés, parce qu'il voyait que le pasteur se concentrait sur les gens qui étaient particulièrement engagés et sur ces deux premiers cercles. Alors, il a vu que les gens qui étaient en consommation, commençait à dire ça, il commençait à papoter, il commençait à dire ça, etc. Mais il a aussi commencé à partir. Mais le cercle des gens qui étaient autour du cercle du conseil commençait à grandir. Vous voyez ? Le changement sociologique de l'Église. Et l'Église devenait de plus en plus une Église de disciples. Et que le niveau des gens qui étaient en train d'être venir en tant que consommateurs diminuait. Et ça a été un choix. Et ce pasteur a dit, voilà, je vais commencer à réapprendre à plaire à Dieu. Vous voyez ? Et pourquoi je parle de cette peur de décevoir ? Parce que ça peut nous jouer des tours, hein, moi le premier. Alors d'où que ça vient finalement cette peur de décevoir ? Alors il y a des origines. Hein. Souvent dans nos vies, la peur de décevoir, c'est des peurs qui sont profondes, qui peuvent venir de notre enfance, de notre passé. Ça peut être par exemple des parents qui ont mis sur des enfants des attentes importantes au niveau des études. Il faut que tu réussisses, il faut que tu sois le premier. Et quelque part, on grandit pour ne pas décevoir nos parents, de ne pas décevoir nos profs, de ne pas décevoir le pasteur, de ne pas décevoir notre épouse, de ne pas décevoir notre époux. Vous voyez, ça part à un moment donné dans notre passé. Ce n'est pas inné. La peur de décevoir, c'est un fruit qu'on porte qui a été construit quelque part à cause de circonstances différentes dans notre famille, dans l'éducation, ou les deux. Et des attentes qui ont pu être mises dans notre vie et qui ont fait qu'on a développé cette peur de ne pas décevoir les hommes. Donc quelque part, quand on ne veut pas décevoir, c'est qu'on a peur d'être rejeté. Et souvent, c'est lié aussi avec une image de soi qui est relativement faible. On peut avoir une très pauvre image de soi et on n'a pas forcément non plus cette assurance en soi-même. On ne se sent parfois pas apprécié. On se sent parfois nul, ou parfois on était préféré par rapport à un grand frère ou une sœur, etc. Et on veut faire plaisir aux gens autour de nous, quitte parfois à nous sacrifier. Et à gommer notre personnalité et nos désirs profonds, ceux qui sont au fond de notre personnalité. Dans le mariage, on peut le voir, hein, on peut vraiment se courber l'un en face de l'autre. Liane Penn, c'est une femme qui écrivait des livres dans les années 90, une femme qui était très engagée dans la relation d'aide, une américaine, et elle disait comme ça que les gens peuvent se courber comme ça en tant que couple, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se modifier, ils sont en train de s'adapter l'un à l'autre en perdant leur personnalité. Et en fait, une femme, par exemple, pour éviter que son mari, pour la peur de décevoir son mari, peut complètement modifier sa personnalité et ses comportements, et je dirais même s'extraire de sa personnalité simplement pour plaire à son mari. Ce n'est pas une très bonne dynamique. Si je ne fais pas ce que mon partenaire veut, peut-être il me quittera. Si je ne suis pas à la hauteur des attentes de mes amis, de mon entourage, ils me remplaceront. On a vécu ça. À l'école aussi. Ou quand on est plus âgé. On a tendance à radicalement changer nos personnalités pour être aimé. Et ne pas engendrer la déception chez autrui. Je vais faire tout pour ne pas décevoir mon pasteur, mes leaders, mes collègues. Et pour éviter que l'incident se reproduise dans le présent, on aura un comportement toujours en fonction des attentes et des exigences des autres. Si je ne satisfais pas les besoins de mon mari, je vais me retrouver toute seule et peut-être un jour abandonnée de tous. Alors ça, c'est un peu l'introduction, hein. Voilà, pardon. Hein. Mais on va prendre des passages dans la Bible aussi. Alors, on pourrait dire, on va prendre quelques textes, mais on va prendre de bons exemples. Et puis, j'ai écouté sur le site qu'il y a eu plusieurs ministères prophétiques qui sont passés, enfin, dans le dernier trimestre, on va dire. Et on voit en tout cas que les prophètes de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau, ce n'étaient pas des gens qui agissaient sur la peur de décevoir. Important, hein. Si vous êtes dans le ministère, vous êtes déjà, on est tous dans le service pour Dieu, de toute façon, depuis qu'on s'est tourné vers le Seigneur. Mais il faut purifier cette dynamique, si vous l'avez dans votre vie, cette peur de décevoir. Parce que les prophètes, ça c'est un exemple, on va dire, archétype, c'est que les prophètes de l'Ancien Testament ne vivaient pas leur ministère avec ces dynamiques de la peur de décevoir les rois, les institutions, etc. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était plaire à Dieu. Voyez, c'est vraiment la dynamique inverse. On voit dans 1 Samuel 15, 22, un homme, un roi, le premier roi d'Israël qui a vraiment, finalement, vécu, on va dire, toute sa vie en essayant, finalement, de ne pas décevoir les hommes. Et ça lui a joué des tours. C'était Saül. 1 Samuel 15, 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Et au verset 24, Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu quoi ? J'ai eu peur du peuple, et je l'ai écouté. » Oui. Et Samuel est un des personnages bibliques où, on va dire, une grande partie de sa vie, sa dynamique de base a été, je dirais, fonctionnait pour plaire aux hommes, pour ne pas décevoir les hommes et les femmes. Et beaucoup de rois dans l'Ancien Testament, on peut dire Akab, le mari de Jézabel, il a essayé de plaire aux hommes. Il a accepté finalement le polythéisme au sein d'Israël. Il a accepté qu'il y avait les prophètes d'Astarté et de Baal parce qu'il ne voulait pas être radical. Il a capitulé à la radicalité, vous voyez, influencé par sa femme aussi. La peur de décevoir. La vie de Saül n'était-elle pas en partie motivée par la peur du rejet ? La peur du rejet. La peur de décevoir les hommes, mais de ne pas écouter Dieu attentivement. Et pour nous, chrétiens, il y a un lien direct entre la peur de décevoir et l'obéissance à Dieu. Je le dis cash, hein. Voyez ? La peur de décevoir les hommes nous entraîne à ne pas obéir à Dieu, à ne pas plaire à Dieu. C'est aussi simple que ça. Dans Jean 6, versets 65 à 66, il ajouta, alors c'est Jésus qui parle, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. » Et dès ce moment-là, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Et on voit que là, Jésus n'a pas capitulé à cette tentation de plaire aux hommes, mais plutôt de plaire à Dieu. Vous voyez ? Et c'est une vraie tentation hein, dans l'Église aujourd'hui, parce qu'on veut faire du buzz. On veut avoir des grandes églises. Grandes églises, synonyme de grand succès, grand leader. Mais est-ce que c'est vraiment la dynamique de Dieu, parfois ? Combien de pasteurs sont tentés, pour ne pas perdre des membres, des leaders, des prophètes, des apôtres, tous les ministères, pour ne pas perdre des équipiers, même à Jeunesse en Mission, combien sont tentés, finalement, et capitulent devant le fait de la peur de décevoir. Il y a 10 ans de cela, ou 12 ans de cela, je suis allé voir un des leaders de Jeunesse en Mission qui créait des problèmes, on va dire ça en résumé, mais personne n'allait le voir. Et un jour, je suis allé le voir, j'étais plus jeune que lui, en tout cas plus jeune que lui dans la foi, donc ce n'était pas évident. Et je savais que si j'allais le voir, j'allais le décevoir. Parce qu'en plus, cette personne-là m'avait formé pendant plusieurs années. Vous voyez le dilemme ? Pas évident, hein ? Mais je sentais que là, il y avait une injustice où Dieu n'était pas d'accord, qui ne me concernait pas forcément, mais qui touchait une grande partie de la mission de Jeunesse en Mission il y a 12 ans en arrière. Je suis allé le voir et je lui ai dit, comme on dit souvent, les 4 vérités. Mais moi, ça m'a joué des tours importants. C'est qu'à la suite de ça, j'ai été traité de traître. Mais dis donc, ce gars-là, il s'est formé, il a passé du temps avec toi pendant 4 années, etc. Comment tu peux lui dire ça ? Ceux qui travaillaient avec lui, qui étaient de la génération plus âgée que moi, il y en a certains qui ont dit, tu as eu le courage de le faire. Heureusement, certains l'ont dit, tu as eu le courage de le faire. Et j'ai passé pendant, on va dire, Aliane, elle connaît cette histoire, j'ai passé pendant 5 à 6 ans d'être dépouillé complètement par les uns et par les autres. Vous voyez ? Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais ? J'avais fait des erreurs, moi aussi. Hein. Mais alors là, j'étais plus dans le scénario plaire aux hommes. Hein. Non, les gens ne m'aimaient pas, hein, franchement. Hein. Du plus ancien au plus jeune. Plusieurs. Et j'ai commencé de fermer ma bouche, parce que la tentation Pour plaire aux hommes, c'est de me justifier. Je me justifiais, je me justifiais. Ah oui, mais je me justifiais. Et j'ai capitulé. Et à un moment donné, je me souviens très bien, je me suis senti dépouillé. C'était comme si j'étais tout nu devant tout le monde, voyez. Et là, mes amis, là, j'étais au cœur de la volonté de Dieu. J'ai plus rien à perdre, parce que tout est perdu. On a dit tout et son contraire. Et j'ai dit, là, on va voir qui sont mes vrais amis. Et c'est dans ces moments-là que les choses ont commencé à changer, que les gens ont commencé de voir que ce que j'avais dit, finalement, n'était peut-être pas si bête que ça, et que la personne, oui, effectivement, ce que tu avais dit, c'est ça. Et plusieurs m'ont dit, on n'avait pas le courage de le dire, on préférait rester dans cette nébuleuse de plaire aux hommes et pas trop se dire les choses. Et finalement, avec le temps, les choses se sont avérées être justes. Mais moi, je m'en foutais. Quand j'étais dépouillé, je ne cherchais même plus à savoir, je cherchais même plus à avoir raison, vous voyez. Mais finalement, on doit passer par des moments comme ça, mes amis. On doit passer par des moments comme ça, où on décide d'arrêter d'être dans ce scénario de décevoir, de la peur d'être rejeté, qui peut être compréhensible, parce qu'on peut être rejeté, mais de dire, Seigneur, je veux te servir. Je veux vraiment t'obéir à toi. Alors, je vous donne quelques conseils. On voit encore dans Actes 4, 29, aussi encore un passage pour illustrer. Il y en a plusieurs. Actes 4, 29, c'est Pierre qui parle et qui dit ceci. « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. » Et là, c'était vraiment un passage important à l'époque. L'Église qui commence, c'est qu'il fallait choisir si les disciples allaient plaire aux hommes plutôt à Dieu. Alors on continue, parce qu'il faut qu'on ait quelques conseils quand même. Si vous êtes dans cette dynamique qui n'est pas bonne, cette spirale de constamment, travailler pour plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, quelques conseils. Ça va jusque-là? J'espère que je ne culpabilise pas. Hein. J'espère que non, hein. Premièrement, c'est le lâcher prise. Si vous êtes dans cette dynamique de vouloir plaire aux hommes, la peur de décevoir, la peur d'être rejeté, apprenons à lâcher prise devant le Seigneur. Posez-vous peut-être les questions, les bonnes questions. Pourquoi avez-vous tellement peur de ne pas être à la hauteur ou de décevoir les autres? Pourquoi avez-vous tellement peur de ne pas être à la hauteur et décevoir les autres? D'où est-ce que ça vient? Posez-vous cette question. Cela va nous permettre de prendre conscience et de réaliser à quel point la plupart des raisons qui nous motivent à plaire aux hommes sont parfois complètement éloignées de la réalité. Apprenez à relativiser. Souvenez-vous, mes amis, que plaire à tout le monde est impossible. Il faut le savoir. Et quand parfois on veut être dans la perfectibilité, on veut être parfait, vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas cela, la perfectibilité. Ce n'est pas forcément une vertu pour certaines personnes, et donc ils ne vont pas vous considérer comme étant des gens qui font les choses bien. Donc souvenez-vous que plaire à tout le monde, ce n'est pas possible. Même si vous faites tous les efforts du monde pour les satisfaire, cela ne sera jamais satisfaisant et suffisant. En lâchant prise, la peur d'engendrer la déception va commencer de disparaître. Ça va vous aider. Car vous ne savez pas qu'est-ce que vous contrôlez. Vous ne pouvez pas contrôler les choses. Et vous n'avez pas de pouvoir, et vous n'avez pas le pouvoir de contrôler ce que les gens autour de vous ressentent et éprouvent. Donc le premier point, lâchez prise si vous êtes dans cette dynamique. Le deuxième point, c'est surmonter. Essayez de surmonter et dépasser la peur de décevoir. Vivre dans l'instant présent. Difficile de vivre dans l'instant présent dans la société aujourd'hui. On nous fait vivre dans l'avenir, dans le passé. On court et on court et on court. Vivre l'instant présent. Arrêtez-vous. Prenez le temps. Apprenez à faire une seule chose à la fois. Acceptez la possibilité de l'échec. Accepter la possibilité de l'échec. Et mes amis, il n'y a personne dans cette salle, moi compris, ensemble, qui n'avons pas vécu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois les échecs dans nos vies. Et je vais aller plus loin tout à l'heure. Donc dépasser la peur de décevoir et accepter que vous allez faire des échecs. La peur de l'échec engendre toujours la peur de ne pas être à la hauteur. Vous n'arriverez pas à réaliser vos projets parce que vous êtes effrayé à l'idée de décevoir les autres qui ont foi en votre potentiel. Alors concernant l'échec, en réalité, la succession d'échecs dans nos vies permet aussi que nous réussissions. Et c'est souvent la succession de certains échecs dans nos vies qui fait que nous réussissons. La réussite et l'échec vont ensemble. Vous voyez ? Les échecs sont des tremplins, sont des passes, sont des moteurs, sont des étapes de sagesse, de leçons qui nous permettent d'avoir des succès. En d'autres termes, ceux qui n'ont pas eu beaucoup d'échecs n'ont pas forcément eu beaucoup de succès non plus. La réussite est une succession d'échecs, et sans cette dernière, cette réussite, vous ne pouvez pas améliorer votre vie. C'est grâce aux vertus de l'échec que l'on apprend nos erreurs et qu'on ne les reproduit plus. L'échec. On ne parle pas souvent de l'échec. Si vous avez entendu parler d'un homme qui s'appelait William Wilberforce, pour les Anglais, William Wilberforce était un avocat au XVIIIe siècle. Cet homme-là, il a été une des premières personnes dans le monde, en tant que chrétien, avocat, à abolir l'esclavage du temps des négriers, etc. Il a constamment essayé en tant qu'avocat de lancer des procédures échec, échec après échec, échec après échec, échec après échec, et il a finalement réussi. Et c'est grâce à lui et certains autres, mais il fait partie des pelotons de tête, que l'abolition de l'esclavage, que le fait qu'on n'accepte plus que ce soit normal, ça a été là que ça a commencé au travers d'un homme, après une succession d'échecs. Pierre, l'apôtre Pierre, il a quand même renié trois fois Jésus. Je n'irai pas dire qu'il est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a renié trois fois Jésus, je ne sais pas. Mais ce que je suis sûr, c'est que son triple reniement a certainement fait de ce qu'il a été après. Ah ça c'est sûr. Et je pourrais paraphraser avec un verset: à celui qui a beaucoup péché, on a beaucoup pardonné. À celui qui a beaucoup échoué, il réussira beaucoup. Après ces trois reniements publics, tout le monde le savait, Pierre qui était, à cause de cela, était quelqu'un qui avait quelque chose à dire dans ce monde. Après trois échecs successifs. Alors le premier point, c'était lâcher prise. Le deuxième point, c'était essayer de surmonter, dépasser la peur de décevoir en mettant en point d'orgue la notion de l'échec. On en a tous eu, hein. J'en ai eu pas mal, moi aussi. Le troisième point, c'est cesser de plaire aux autres et plutôt de plaire au Seigneur. Hein. Il faut accepter que tu n'es pas assez bien pour tout le monde. J'étais au Cameroun l'autre fois, il y a quelques années, et j'étais habillé comme je suis. Et j'avais même des souliers noirs, donc c'était mieux. Et puis il y a un président de fédération qui vient, un monsieur assez grand, vraiment tiré à quatre épingles. Et puis il a appris que le président de Jeunesse en Mission France était au Cameroun. Alors il arrive à Jeunesse en Mission, dans la salle de classe, on avait fini l'enseignement, et puis il dit: je voudrais saluer le président de Jeunesse en Mission. Alors, il y a un frère, Moïse, un ami à moi, il me dit: il est là-bas. Il vient vers moi et il me regarde comme ça, de la tête aux pieds, hein, avec un air de dédain comme ça. Il fait ça. Il dit: c'est ça le président de Jeunesse en Mission? Mais je vous le dis, hein, il a dit ça. Et je dis: oui, mon frère, il ne faut pas se fier à l'habit. L'habit ne fait pas le moine. Et je dis: mon frère, il ne faut pas regarder aux apparences. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et je n'étais pas habillé en guenilles, hein, quand même. Hein. J'avais une belle chemise blanche, Je m'étais brossé les dents le matin et tout. Oui, quand même, j'avais des souliers. Mais je n'étais pas dans les critères de ce monsieur, quoi. On ne peut pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde et tu ne peux pas non plus t'adapter à tout le monde. Tu vois ? C'est un piège. C'est un piège. Mais en même temps, il y aura toujours des gens, mon frère, il y aura toujours des gens qui t'apprécieront pour qui tu es. C'est ça. Il y a toujours des gens qui t'apprécieront pour qui tu es. Et quand tu passes par des temps difficiles, d'ailleurs, va voir ces gens-là. Des gens qui vont te célébrer. On célèbre le Seigneur, hein, bien sûr. Mais des gens qui vont t'encourager parce qu'ils t'apprécieront pour qui tu es. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est vrai. Et on ne peut pas forcément s'adapter à tout le monde. Vous avez commis des erreurs, non, on va le dire comme ça, nous avons commis des erreurs, et je vous donne une bonne nouvelle, vous en commettrez d'autres. Hein ? Ah, il faut aller voir ma femme, il y a la liste. La perfection n'existe pas sur cette terre, cela reste une quête. Pour demeurer fidèle à votre personnalité au quotidien, ayez le réflexe d'être toujours sincère et authentique envers vous-même et envers les autres. La clé pour éviter de tomber dans ce piège de plaire aux hommes, de ne pas décevoir, c'est de travailler à l'authenticité dans vos vies. Voyez ? Essayez d'être vous-même le maximum. Essayez d'être fidèle à votre personnalité. En étant vous-même authentique, vous allez peut-être parfois décevoir les autres, mais au moins vous serez dans l'authenticité. On ne peut pas plaire à tout le monde aussi du fait que nous avons des personnalités différentes. Moi, je connais des gens, quand ils ont des dons pour accueillir, ils sont vraiment avenants, je ne sais pas, ils auraient été à la porte d'entrée de l'église, ils ont la classe pour le faire. Moi, je reconnais que je suis assez gauche par rapport à ça, quoi. Hein ? L'accueil, ce n'est pas trop mon truc, quoi. Je reconnais que ce n'est pas trop mon truc. L'authenticité est un choix courageux. L'authenticité est un choix courageux. Et enfin, le dernier point, donc le premier point, c'était le lâcher prise. Ça fait du bien de lâcher prise, hein, je peux vous le dire. Hein. Ça fait du bien. Hein. Là, on arrive à un point d'orgue où on est vraiment dans l'authenticité en relation avec Dieu. Le deuxième, c'est travailler à essayer de décoder pour dépasser la peur de recevoir. Quelles sont les choses ? Quels sont les codes dans ma vie qui font que je retombe constamment dans ce panneau ? Le troisième, c'est cesser de plaire aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on envoie les gens balader, hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Hein. Et j'allais ajouter aussi, il y a des gens qui ont peur de décevoir. Et vous savez ce qu'ils font pour ne pas être déçus des gens ? Ils font exprès de déplaire aux gens. Il y a cette mécanique aussi. Il y a des gens qui sont toujours dans la rébellion. Au moins, ils ne vont pas décevoir les gens, mais parce qu'ils se sentent rejetés. Donc il y a des fois dans les églises, on a des gens qui sont très rebelles, mais parce qu'ils ont soif d'amour. Ils ont peur d'être rejetés. Donc quand tu te rejettes toi-même, t'es sûr que tu ne vas pas être rejeté en apparence. Mais c'est parce qu'au fond, il y a une dynamique de rejet. Et enfin, le dernier point, j'ai résumé dans ce que j'ai trouvé. Travaillez votre confiance en Dieu et travaillez votre confiance en vous. Travaillez votre confiance en Dieu et travaillez votre confiance en vous. Parce que la peur de décevoir vient aussi, bien sûr, de la peur d'être rejeté, mais vient aussi, bien évidemment, d'un manque de confiance en soi. Il faut travailler à cette idée de qu'est-ce que Dieu pense, finalement. Pas qu'est-ce que moi je pense, ni mon entourage, mais qu'est-ce que Dieu pense, comment Dieu voit les choses. Hein, se ramener à Dieu, vous voyez. Un pasteur qui dirige une église, c'est pas de se dire qu'est-ce que je vais faire pour plaire à mon assistance, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que je te plaise dans le cadre de l'église locale ? C'est ça la bonne question. Hein, obéir à Dieu, lui plaire, se soucier de qu'est-ce qu'il pense, lui. L'autre point aussi qui est indiqué, c'est travailler sur vos points forts. Pas forcément sur vos points faibles. Ça touche l'appel de Dieu, ça. Renforcer vos compétences et vos dons. Vous voyez ? Parce que souvent aussi, quand on parle du ministère, l'appel de Dieu, il y a quantité de chrétiens qui cherchent à quelqu'un d'autre pour plaire. Il y a beaucoup de gens qui aiment être prophètes, c'est la mode aujourd'hui. Il y en a plein de prophètes. Après, il faut les trier pour avoir les vrais. C'est vrai, hein, parce que c'est un ministère de puissance, etc., et paroles de connaissance, tout ça, etc. Mais là aussi, c'est important parce que dans l'appel de Dieu, quand on est dans les bonnes chaussures, on est bien calé parce que l'appel de Dieu, ça correspond à notre personnalité et ça correspond avec qui on est. Et les gens vont nous voir par rapport à qui nous sommes. Et on évite tous ces glissements après de la peur de décevoir parce que les gens nous voient différemment aussi. Vous voyez ? Il faut clarifier les pistes. Il faut nettoyer la vitre de la salle de bain. Il faut que les gens voient clair dans notre vie. Il faut qu'on voit clair en nous-mêmes. Et c'est de travailler nos compétences, nos dons, les repérer avec les autres et enfiler les bonnes chaussures et ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Un autre point qui peut nous aider aussi à travailler notre confiance en Dieu et en nous, c'est éviter la comparaison avec les autres. Hein ? Ça, ça casse tout de suite le piège de tomber dans la peur de décevoir. Éviter la comparaison. On a tous tendance à se comparer. Moi, j'étais jaloux d'un frère dans le temps, c'est un ami à moi. Hein. Ah, je voulais tellement être comme il était, etc. C'était parce que je n'avais pas confiance en moi, j'avais la peur du rejet, etc. Et puis, voilà. Ne vous comparez pas. Ne prenez pas tout personnellement. Hein. Souvent, on prend tout comme accusation personnelle. Non, non, il y a des choses qui ne nous concernent pas. Ne prenez pas tout personnellement. Ce que les autres disent de vous, c'est le dernier point, ce que les autres disent de vous ne définit pas forcément qui vous êtes. Hein. Donc, ce n'est pas les autres qui doivent définir qui vous êtes, mais vous devez vous découvrir vous-même avec les autres, parce que les autres ont des bons miroirs aussi, pour éviter justement ce dysfonctionnement et ces mauvaises projections qui fait qu'on tombe dans la peur de décevoir les autres. Donc il y a des corrélations là. Hein. La peur de décevoir les autres, c'est aussi le fait que lorsqu'on rentre dans ces dynamiques, on s'éloigne du fait de plaire à Dieu. Et si on s'éloigne du fait de plaire à Dieu, on rentre dans des attitudes, dans des comportements qui sont finalement de la désobéissance quelque part, parce qu'on n'est plus du tout dans les clous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc je voulais vous partager ça ce matin, et j'aimerais juste qu'on puisse terminer par la prière. Le but du message ce matin, c'est de donner quelques lumières, j'espère que je vous en ai apporté quelques-unes, pour qu'on puisse avancer. Et je pense que de temps en temps, il faut revenir dessus, parce qu'on retombe dans le panneau parfois. Vous voyez, ce n'est pas juste une chose acquise. Des fois, on change de boulot. Et puis, comme on change de boulot, on a une place et qu'on a un nouveau patron. Et comme on n'a pas fait ses preuves, on a peur de ne pas décevoir et on va retomber là-dedans. Ce n'est pas évident, il faut reconnaître. Si on prend un nouveau poste, je me rappelle encore une fois, dernier témoignage d'un pasteur américain, tout jeune, frémoulu. Hein, et puis, lui, il voulait avoir du succès avec son église. Il voulait être connu. Il voulait que les gens parlent de lui, les gens parlent de son église. Et il connaissait David Wilkerson. C'est lui qui a croix et le poignard. Et comme c'était pour lui une référence, il a dit « David, est-ce que tu pourrais me donner un conseil ? Moi qui suis jeune pasteur, dans la côte est américaine, hein, donc c'est là, il y a un niveau d'exigence élevé. Hein. C'est des églises, c'est presque de la concurrence économique plus que spirituelle. » Il lui dit « David, donne-moi un conseil, toi qui as une longue expérience, pour que je réussisse en tant que pasteur. » David le regarde. Et il voyait bien que ce jeune pasteur était muet, fonctionnait avec ses dynamiques de la peur de décevoir ses collègues et les membres de son église. Alors David lui dit, écoute, je te donne un conseil où tu réussiras toujours en tant que pasteur. Toujours. Où tu seras. Alors le gars, il écoute. Et David lui dit, ouvre ton église aux pauvres. Ouvre ton église aux pauvres, et tu y réussiras toujours. C'est une parole lourde de sens. Hein. On peut prier, on va prier. Hein, pour que le Seigneur nous aide à ce qu'on aille plus loin dans ces domaines. Seigneur, on est ensemble, et on a traversé, ou on est en train de réaliser cela aujourd'hui, ça dépend des personnes, que nous sommes souvent confrontés à cette dynamique infernale, cette spirale de la peur de décevoir. Et l'énergie qu'on y met derrière, peur de décevoir les hommes, peur de te décevoir, et j'ose dire parfois, On ne le dit pas, mais on dit parfois, Seigneur, tu m'as déçu. On ne le dit pas aussi. Mais tu n'es pas tombé dans ce piège, Seigneur. Et nous te prions que nous allions plus loin et que nous puissions peut-être mettre le curseur plus du côté de toi, Seigneur, en face de toi, et de se dire finalement, Seigneur, qu'est-ce que tu penses, toi ? Comment tu voudrais que je règle mes actions, mes pensées et mes comportements vis-à-vis de toi et non vis-à-vis des hommes ? Et Seigneur, je prie que tu nous aides, parce que nous savons tous que ça fait mal, ça prend beaucoup d'énergie, ça nous entraîne loin de qui nous sommes, ça nous entraîne dans des confusions, ça nous entraîne souvent loin de toi, et on peut gaspiller des mois et des années à vouloir faire plaisir à des chimères, à des choses qui s'envolent, et quand on prend les années passent, on se rend compte qu'on a passé du temps à vouloir nous formater par rapport à des personnes, des circonstances, mais on n'a surtout pas vraiment cherché peut-être à te plaire à toi. Seigneur, pardon toutes les fois où nous voulons plaire aux hommes plus qu'à Dieu, aux circonstances, aux parents, etc. Et comme Gédéon, dans Juges, il aurait pu partir avec une grande armée, mais il a accepté ta parole de partir avec un petit nombre. Et même, il a renversé le poteau de son père. C'était pourtant une tradition à l'époque, plaire à son père et à sa famille. Mais il a choisi de te servir et de te plaire. Et Seigneur, qu'on puisse aller dans le sillage, en tout cas dans ton sillage, mais aussi de nous inspirer des hommes et des femmes comme Gédéon et d'autres qui sont des exemples pour nous, qui ont choisi avec courage de vivre l'authenticité. Amen.